Bon, et pour la suite de l'exposé, eh bien, je redonne la parole à Maud Nathan.
En 10 ans d'occupation militaire, les armées occidentales ont fait des centaines de milliers de victimes. Malgré la présence des troupes de l'OTAN, la plus grande partie du territoire afghan est à la merci des seigneurs de guerre et des milices armées de toutes sortes. Le pouvoir réel du gouvernement Karzaï, soutenu à bout de bras par l'impérialisme américain, ne s'étend pas au-delà d'un territoire limité autour de Kaboul. Jusque-là, la stratégie suivie par les militaires américains avait été de privilégier les frappes aériennes sur les villages afghans afin de ne pas risquer la vie des soldats occidentaux. Par la suite, des drones, avions sans pilote, furent utilisés pour bombarder sans avoir à risquer la vie des pilotes. Mais l'usage de la force aérienne multiplia les dommages dits « collatéraux » qui étaient en réalité des dommages tout à fait assumés. Il en résulta de violentes manifestations anti-américaines à Kaboul dès 2006. Les généraux américains McChrystal et David Petrus mirent alors au point une nouvelle stratégie dite de guerre psychologique qui, tout en maintenant les interventions aériennes ciblées, était censée viser à améliorer les conditions de vie de la population. Les galonnés en question n'hésitèrent pas à expliquer que pour eux, il s'agissait, selon leurs termes, de gagner les cœurs et les esprits. Mais comme leur stratégie continuait à s'accompagner des mêmes exactions et à s'appuyer sur le même régime haï, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle se soit soldée par un nouvel échec. Alors avec un pareil bilan, à quand le retrait des troupes impérialistes ? Il serait sans doute difficile de trouver un pays occidental dont la population serait favorable au maintien de ses troupes en Afghanistan. En tout cas, si l'on en croit les sondages, ce n'est le cas ni aux États-Unis ni en Grande-Bretagne, les deux pays les plus engagés dans la guerre. Obama prétend aujourd'hui être entré dans une logique de désengagement. Les prochaines échéances présidentielles américaines n'y sont sans doute pas pour rien. Il a récemment annoncé le retrait d'ici l'été 2012 des 33 000 soldats américains supplémentaires qu'il y avait envoyés en 2010. Il resterait donc encore 70 000 soldats américains en Afghanistan en 2012. De son côté, le gouvernement français, dont l'engagement est contesté jusque dans les rangs de sa majorité, a annoncé le départ de 1 000 soldats français d'ici la fin 2012, dont 200 environ ont été rapatriés en octobre dernier, et le retrait de l'ensemble des troupes françaises d'Afghanistan en 2014. Il faut dire que Sarkozy et Longuet, le ministre de la Défense, peinent à justifier le nombre croissant de soldats français tués. 76 morts sur 4 000 hommes, cela commence à faire beaucoup. Pour le moment, l'impérialisme semble coincé. Officiellement, le retrait des troupes étrangères présentes en Afghanistan doit aller de pair avec le transfert de responsabilités à l'armée afghane pour le maintien de la sécurité et qui devrait être finalisé, selon Obama, en 2014. Mais combien de temps pourra tenir le régime que les impérialistes laisseraient en place derrière eux s'ils quittaient l'Afghanistan ? Les groupes insurgés qui jouent sur le nationalisme pachtoun ne risquent-ils pas de jouer sur la sous-représentation des pachtouns parmi les gradés de l'armée et de la police ? Et les soldats, comme les policiers qui sont sous-payés, ne sont-ils pas corrompus et susceptibles de changer de camp ? Toutes ces incertitudes laissent à penser qu'il n'est pas du tout évident que les troupes impérialistes quittent de sitôt l'Afghanistan. Et même si elles se retiraient, quelle sera la fonction des dizaines de milliers de mercenaires privés restés derrière elles, sinon de poursuivre l'occupation ? À qui serviront des infrastructures telles que la base aérienne de Bagram, qui a été dernièrement agrandie à coût de dizaines de millions de dollars. Si les dirigeants impérialistes s'accrochent au régime de Karzaï, ce n'est pas tant parce qu'ils y tiennent, ni parce qu'ils leur semblent capables de garantir la stabilité politique de l'Afghanistan, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Car pour qu'il en soit autrement, encore faudrait-il que l'impérialisme trouve, parmi les groupes insurgés, des forces avec lesquelles parvenir à un règlement politique et ayant suffisamment de poids pour l'imposer aux autres groupes insurgés et à la population. Or, le problème de l'impérialisme est qu'il n'a pas d'interlocuteur. Pourtant, cela fait plus de 2 ans que les États-Unis et la Grande-Bretagne proclament qu'ils cherchent à négocier avec ceux qu'ils appellent les talibans. Et sans doute y a-t-il eu bien d'autres tentatives officieuses auparavant, mais sans aucun succès à ce jour. Non, sans une certaine ironie, les dirigeants occidentaux se retrouvent pris au piège d'un mythe qu'ils ont eux-mêmes créé, celui d'une résistance homogène, coordonnée, dotée d'un commandement centralisé, bref, ce qu'ils appellent les talibans. Mais il ne s'agit que d'un mythe, bien commode pour donner une apparence de justification aux difficultés rencontrées par la plus puissante armée du monde. La réalité est beaucoup plus complexe, comme l'illustre le cas de Ghulam Yahya, un ancien commandant anti-taliban au sein de l'Alliance du Nord. Devenu maire de la ville d'Herat, dans le nord-ouest du pays, il fut limogé en 2006 par Karzai, qui le remplaça par l'un de ses fidèles. Yahya retourna alors dans son district d'origine, où il organisa une milice armée et rompit avec le régime de Karzai. À partir de ce moment, Yahya fut officiellement décrit par les autorités comme un taliban. Pourtant, bien qu'étant un seigneur de guerre comme bien d'autres, les écoles de son district, selon un journaliste du Wall Street Journal, y étaient fréquentées par les enfants des deux sexes et on n'y trouvait aucune des restrictions imposées jadis à la jeunesse par le régime des talibans. Certes, la résistance armée compte-t-elle d'anciens cadres talibans, mais la grande majorité d'entre eux semble avoir préféré la route de l'exil au Pakistan ou dans les pays du Golfe après leur défaite en 2001. Dans la réalité, il existe une galaxie de groupes insurgés, plus ou moins rivaux, qui poursuivent chacun leurs objectifs propres et ne sont pas prêts à se plier à une discipline collective. Et bien que tous aient en commun leur islamisme, la religion n'est pas nécessairement leur principale raison d'être. Le fait que ces groupes soient atomisés ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'existe aucune coopération entre eux. Mais il implique qu'ils ne forment pas une force homogène que l'on puisse identifier à l'ancien régime des talibans, d'autant moins que certains de ces groupes les ont combattus. Chaque groupe armé lève ses propres fonds, en partie en recourant à diverses formes de raquettes aux dépens de la population. Au contraire de ce qui est souvent rapporté, ce n'est pas le trafic de drogue qui apporte le plus d'argent à tous ces parasites, mais surtout le racket des sous-traitants afghans travaillant avec l'aide financière occidentale. C'est ainsi que, d'après l'ONG britannique Oxfam, 25% du total de l'aide occidentale va droit dans les poches des groupes armés sous forme de primes de protection payées par les entrepreneurs sous-traitants, voire par les troupes d'occupation elles-mêmes. Face à cette atomisation de la résistance armée que les leaders occidentaux ont contribué à créer, on voit mal comment ils peuvent sortir du bourbier afghan par des moyens politiques qui garantissent la stabilité du futur du pays. Reste 2 possibilités. Poursuivre l'occupation directement avec leurs troupes ou indirectement en faisant appel à des mercenaires, ou bien se désengager complètement en abandonnant Karzai à son sort. Mais aucune de ces options n'a la moindre chance de normaliser la situation en Afghanistan. Or, plus le temps passe et plus l'instabilité politique en Afghanistan se fait sentir au-delà de ses frontières. En effet, l'Afghanistan est lié à ses proches voisins, qu'il s'agisse de l'Iran à l'ouest, des ex-républiques soviétiques au nord, de la Chine à l'est et surtout du Pakistan et de l'Inde au sud. Les liens ethniques, linguistiques et religieux entre les populations de la région font que depuis le début de la guerre contre l'invasion soviétique, chacune des épreuves dramatiques par lesquelles est passée la population afghane a été ressentie dans les pays voisins et a eu des répercussions dans leur vie politique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au Pakistan, pilier régional de l'ordre impérialiste, et à l'Inde, sa voisine, car ce sont les deux pays les plus directement touchés par l'extension de la guerre d'Afghanistan et qui, par ailleurs, ont également des populations beaucoup plus nombreuses. Le Pakistan compte à lui seul 187 millions d'habitants, c'est-à-dire 6 fois plus que l'Afghanistan, tandis que l'Inde est peuplée d'1,2 milliard d'habitants. C'est dire combien l'impérialisme serait confronté à de tout autres problèmes si l'instabilité afghane venait à gagner le Pakistan et l'Inde par un effet de réaction en chaîne. Quel a donc été l'impact de ces 3 décennies de guerres afghanes sur le Pakistan? Lorsque les troupes soviétiques entrèrent en Afghanistan, le Pakistan était sous la botte de la dictature du général Zia, qui avait renversé le régime d'Ali Bhutto par un coup d'État en 1977. Zia était le dernier d'une longue série de dictateurs militaires dans un pays qui n'avait connu que de brèves périodes de pouvoir civil. Il représentait une armée pléthorique qui constituait un véritable État dans l'État, appuyé sur un colossal empire économique, allant de la propriété foncière à la banque, en passant par toutes sortes d'industries et employant près d'1 million de métayers sur ses terres. Et surtout, Zia incarnait la volonté de l'armée d'éradiquer de la conscience collective les humiliations qu'elle avait subies au cours de la décennie précédente. Depuis le renversement en 1968 de la dictature militaire par une vaste mobilisation populaire jusqu'à la sécession du Bangladesh en 1971, où l'armée pakistanaise avait été défaite par l'intervention de l'armée indienne, en passant par la plus grande vague de grève de l'histoire du Pakistan entre 1972 et 1976. Pour mettre au pas la population, Zia eut recours à l'apologie des aspects les plus réactionnaires de l'islam. Mais ce qui n'était que démagogie dans les premiers temps du régime devint une politique systématique après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et qui justifia la promotion de la religion et de l'anticommunisme au rang de rempart ultime pour la nation pakistanaise. À cette occasion, Zia et les services secrets de l'ISI ressortirent les groupes intégristes de leurs placards. Depuis longtemps, l'armée pakistanaise se servait d'eux pour former des groupes armés chargés de ces sales besognes dans la région du Cachemire qui se trouve au centre de tensions permanentes entre l'Inde et le Pakistan. Cette fois, ce fut le moins insignifiant des groupes intégristes pakistanais, le Jamaat Islami Pakistan, surtout connu pour fournir la bourgeoisie en nervis et briseurs de grève contre la classe ouvrière et les organisations de gauche, qui devint donc du jour au lendemain l'auxiliaire privilégié de la dictature. Ce parti fut chargé de recruter des volontaires pour le compte de la résistance afghane, reçut des fonds pour créer des milliers de madrassas et se vit ouvrir les portes des casernes sous prétexte d'y donner des cours coraniques. En même temps, Zia s'efforça d'introduire des éléments de la charia dans le droit pénal et de remplacer les juges par des dignitaires religieux. Les châtiments corporels, la lapidation ou la pendaison pouvaient punir les auteurs de crimes de sang ou d'adultère. Un décret de 1984 stipula que le témoignage d'un homme équivaudrait à celui de 2 femmes. Puis en 1986, le général Zia promulgua une série de lois contre le blasphème, le sanctionnant de peines pouvant aller jusqu'à la mort. Inutile de dire que ce sont les femmes pakistanaises, en particulier celles des classes populaires, qui payèrent et continuent de payer aujourd'hui le plus lourd tribut à cette politique. Les auteurs de viols n'étaient pratiquement jamais poursuivis. Une femme violée pouvait par contre être accusée d'adultère, telle cette employée de maison, Safia Bibi, âgée de 13 ans et aveugle, condamnée à recevoir 15 coups de bâton pour être tombée enceinte après avoir été violée par ses employeurs qui échappèrent à toute condamnation. Ou encore le cas de Mukhtar Mai, condamné par le tribunal de son village à être violée en réparation d'une prétendue faute de son frère, ce qu'elle dénonce dans son livre « Déshonoré ». Ou plus récemment, Asia Bibi, cette chrétienne accusée de blasphème, condamnée à être pendue et qui croupit en prison depuis 2 ans et demi. Toutes ces mesures, dont certaines comme celles contre le blasphème, sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et elles donnèrent aux intégristes une nouvelle légitimité. Par la même occasion, en se servant de la place privilégiée que leur réservait la dictature de Zia, les intégristes purent se construire toute une clientèle qui leur permit d'acquérir une influence qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Les régimes civils au Pakistan qui se succédèrent après la mort de Zia dans un mystérieux accident d'avion en 88 ne firent rien pour désamorcer la montée de l'intégrisme. Au contraire, outre leur corruption, ces régimes eurent en commun une instabilité chronique qui les obligea à rechercher des alliés à n'importe quel prix. Tous flattèrent les partis intégristes, cédant à leurs revendications pour s'assurer leur soutien parlementaire, voire leur participation gouvernementale. De même, après le soutien apporté par Benazir Bhutto aux talibans, lors de leur marche vers le pouvoir, tous ces régimes cherchèrent à entretenir des relations étroites avec le régime taliban, bien que probablement plus pour des raisons économiques que politiques. Lorsque le coup d'État du général Musharraf remplaça ces régimes corrompus en 1999, il ne se trouva probablement pas grand monde pour les regretter. Mais le fait que Musharraf apporte son aide à l'invasion impérialiste de l'Afghanistan donna aux partis intégristes le quasi-monopole de l'opposition à l'impérialisme, surtout lorsque les forces américaines commencèrent à faire des incursions en territoire pakistanais, physiquement ou par drone interposé. Moyennant quoi, les groupes intégristes eurent beau jeu de dénoncer la servilité du gouvernement pakistanais et des grands partis vis-à-vis des envahisseurs occidentaux et donc de se renforcer. Pendant ce temps, les guerres afghanes se sont immiscées dans la société pakistanaise par bien d'autres canaux. Ainsi, l'augmentation de la production d'opium afghan, du fait de l'activité des chefs de guerre, a fait du Pakistan une plaque tournante de la drogue. Des laboratoires clandestins d'héroïne se sont installés dans les zones dites tribales, qui, du fait d'une bizarrerie de l'héritage colonial, bénéficient toujours de l'autonomie que leur avaient conférée les Anglais. Et bien sûr, toute cette drogue alimente le développement de gangs en tout genre. Durant l'occupation soviétique, une part significative des armes destinées aux groupes afghans se volatilisait, détournées au cours de leur transfert du port de Karachi, capitale économique du sud du Pakistan, à la frontière afghane. Par la suite, les livraisons et les détournements d'armes se sont poursuivis tout simplement parce qu'il s'est toujours trouvé des groupes armés afghans pour en importer. Les armes qui se sont perdues dans ces trafics ne l'ont pas été pour tout le monde. Elles se sont retrouvées en vente un peu partout, ouvertement dans les zones frontalières afghanes ou sous le manteau à Karachi, de telle sorte qu'il y a des armes partout dans le pays. Et ceux qui les détiennent ne se bornent pas à les stocker. À Karachi en particulier, les affrontements armés, enlèvements et exécutions entre groupes paramilitaires rivaux sont quotidiens. Ces gangs, qui peuvent mobiliser à l'occasion plusieurs milliers de nervis, sont les bras armés de factions politiques qui se disputent, par exemple, le contrôle des bidonvilles où vivent la majorité des Pashtuns de Karachi. C'est également autour de cette surabondance d'armes que prolifèrent les groupes intégristes armés. Les zones tribales, mentionnées précédemment, leur garantissent des bases arrières sûres à partir desquelles ils peuvent opérer dans la zone frontalière afghane et même bien au-delà. Certains de ces groupes ont ainsi pu réunir assez de combattants et de puissances de feu à divers moments au cours de ces dernières années pour occuper des districts entiers de la zone frontalière. Ils en ont chassé les fonctionnaires qui y représentaient le pouvoir central, contraignant la population à se soumettre à une version de la charia à côté de laquelle celle des talibans pourrait paraître légère. Et lorsque les troupes gouvernementales ont cherché à les déloger, ces groupes intégristes ont souvent réussi à les maintenir en échec pendant des mois. Mais il est aussi arrivé que l'État pakistanais choisisse d'éviter l'affrontement dans ces zones occupées par les milices intégristes. Ainsi, en 2009, le gouvernement passa un accord avec l'une de ces milices, l'autorisant à imposer sa version de la charia dans le district du Markaland près de la frontière afghane. Et pourtant, peu avant cet accord, La milice en question avait décrété l'interdiction de la vaccination contre la poliomyélite et la fermeture de 150 écoles de filles du district. Après avoir peuplé l'Afghanistan d'une myriade de seigneurs de guerre intégristes, la politique de l'impérialisme a réussi à provoquer au Pakistan la multiplication de factions intégristes qui se montrent d'autant plus radicales, c'est-à-dire en fait brutales et sanguinaires, qu'elles sont en concurrence entre elles. Qui plus est, on assiste depuis plusieurs années maintenant à la montée en puissance des exactions de ces factions intégristes, et en particulier des attentats suicides, non plus seulement dans les zones reculées de la frontière afghane, mais jusque dans les grandes villes les mieux protégées du pays, telles que la capitale Islamabad et même Rawalpindi, la ville quartier général de l'armée. Dans les grandes villes, ces exactions ont fait de nombreuses victimes, essentiellement des chiites et des chrétiens, que ce soit par des attaques à la bombe contre leur lieu de culte au moment des prières, ou encore par l'assassinat de leur porte-parole connue. En 2007, l'un de ces groupes intégristes tenta même une démonstration de force armée en plein cœur d'Islamabad. Des membres de ce groupe investirent l'une des plus grandes mosquées de la capitale, la Mosquée Rouge. Équipés d'armes lourdes, ils occupèrent les lieux pendant des mois, terrorisant tout le voisinage sous prétexte de faire appliquer la charia. Finalement, le régime du général Musharraf envoya ses troupes, faisant plus d'une centaine de morts parmi les occupants. Ce à quoi les intégristes ripostèrent par une vague d'attentats contre les institutions de l'État et la police qui fit plus de 4000 morts. Derrière toutes ces exactions et leurs dizaines voire centaines de morts chaque semaine se cache une surenchère sanglante à laquelle se livrent des groupes intégristes cherchant à prouver qu'ils ont assez de moyens humains et militaires pour défier les autorités. Mais surtout, il s'agit pour ces groupes de terroriser l'ensemble de la population, toute religion ou ethnie confondue, pour lui faire comprendre que s'opposer à eux est tout simplement trop dangereux. Sans doute peut-on se demander dans quelle mesure certains de ces groupes ne sont pas eux-mêmes manipulés par certains clans d'une armée qui est non seulement coutumière de ce genre de manipulation, mais qui en plus, depuis l'époque de la dictature de Zia, est elle-même travaillée à tous les niveaux par l'intégrisme. C'est ainsi, par exemple, qu'après l'assaut de la mosquée rouge d'Islamabad, on aurait découvert sous la mosquée un centre de communication directe avec le quartier général des services secrets de l'ISI, les services secrets militaires. Mais que ce soit en tant qu'instrument de clans militaires, qui peuvent d'ailleurs échapper au contrôle de leur maître, ou en tant que forces autonomes, les groupes intégristes n'en sont pas moins des ennemis mortels pour la population pakistanaise, et en particulier pour ces masses pauvres. Au-delà du Pakistan, l'Inde subit elle aussi depuis longtemps les contre-coups de la vague intégriste issue de la politique régionale de l'impérialisme, et cela de multiples façons. Il y a d'abord les aspects les plus visibles de ces contre-coups, tels par exemple les attentats suicides qui ont visé le Parlement de Delhi à plusieurs reprises et qui tous furent revendiqués par des groupes islamistes indiens. Plus récemment, en novembre 2008, il y eut le raid d'un commando qui a fait près de 200 morts et 500 blessés et 250 blessés pardon, à Bombay et que l'on a attribué à un groupe intégriste pakistanais. Mais surtout, il y a des contre-coups peut-être moins évidents mais qui ont déjà coûté bien plus cher à la population indienne, telle la montée de l'extrême droite hindouiste. Car si dans les années 90, cette extrême droite hindouiste a pu réémerger de l'oubli où elle était tombée, si elle a pu se hisser au rang de deuxième parti du pays et finalement accéder au pouvoir à deux reprises, c'est entre autres en jouant sur un réflexe de peur d'une partie de la population hindoue. Cette peur avait été suscitée par le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, perçue comme une victoire des groupes islamistes afghans. Cette peur se trouva renforcée par la montée de l'intégrisme islamiste, non seulement au Pakistan, mais également dans la minorité musulmane indienne, qui est presque aussi nombreuse que la population pakistanaise. Alors, pour alimenter cette peur, l'extrême droite hindouiste, dont toute une frange pourrait être décrite elle aussi comme intégriste, a organisé des pogroms contre la minorité musulmane indienne. En décembre 1992, en particulier, les pogroms organisés dans les quartiers de bidonvilles musulmans par l'une de ces organisations firent 2000 morts en 6 semaines. Plus récemment, en mars 2002, l'un des leaders de cette extrême droite hindouiste présida au massacre de 2000 musulmans dans le cadre d'une campagne électorale. Le terrorisme auquel recourent les politiciens de l'extrême droite hindouiste en Inde est ainsi le pendant des attentats terroristes des intégristes musulmans, pakistanais ou indiens, aux dépens d'une population qui est prise en otage des deux côtés. Mais ce qui rend cette situation encore plus dangereuse, c'est l'existence de part et d'autre d'appareils d'État qu'oppose une rivalité de toujours, des appareils d'État qui, de surcroît, disposent de moyens militaires et humains colossaux, sans même parler des missiles nucléaires qu'ils ont dans leurs arsenaux. Pendant longtemps, la question du Cachemire, ce petit bout de territoire au nord-ouest de l'Inde, disputé entre cette dernière et le Pakistan, a été la principale pomme de discorde entre les deux États. Aussi petit qu'il soit, le Cachemire a quand même fait l'objet de 3 guerres, dont la dernière, même si elle n'est pas allée plus loin qu'une incursion pakistanaise vite repoussée par l'armée indienne, est assez récente puisque datant de 1999. Aujourd'hui, par exemple, une attaque terroriste, plus spectaculaire que les autres, pourrait servir de justification à une guerre, et cette fois, sur une toute autre échelle. Nous venons de voir comment la domination coloniale, puis impérialiste, a entraîné de multiples divisions et affrontements dans toute la région depuis des décennies. Mais c'est de tout temps que l'impérialisme, dans sa période colonialiste comme après la décolonisation, a joué des divisions et des rivalités entre les peuples ou les ethnies, en les attisant ou les réactivant, quand il ne les a pas créées de toutes pièces. Lorsque la bourgeoisie des pays riches se lança à l'assaut du monde pour le mettre en coupe réglée, elle usa du seul moyen dont pouvait disposer une couche sociale ultra-minoritaire pour imposer sa domination, celui du « diviser pour régner ». La conquête et le pillage s'organisèrent en dressant les populations les unes contre les autres. Au cours de l'histoire de l'impérialisme, cela se traduisit par des conflits larvés, des guerres ouvertes et deux conflagrations mondiales au XXe siècle. Et ce n'est pas que du passé, bien que vu d'ici, il n'y a pas eu de guerre depuis 1945. Car si la guerre mondiale s'est achevée en août 1945 par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, il n'y a pas eu un seul jour de paix dans le monde depuis. La décolonisation elle-même a été l'occasion de pogroms en Inde et au Pakistan qui ont fait des millions de morts. Quant au combat d'arrière-garde des puissances impérialistes pour prolonger de quelques années la forme coloniale de leur domination, ils ont fait des milliers de morts, pour ne parler que de notre propre impérialisme, celui de la bourgeoisie française. Il s'est illustré par des massacres à Sétif en Algérie en 1945, à Madagascar en 1947, et par des guerres en Indochine, en Algérie ou en Afrique noire. Et cela ne s'est pas arrêté après la décolonisation. Des générations entières, dans bien des pays du monde, n'ont connu que la guerre. Beaucoup ne voient pas le lien entre la crise économique que nous subissons, la spéculation effrénée des marchés financiers qui menacent les États de faillite et toutes ces guerres à l'autre bout de la planète. Ce sont pourtant les deux aspects d'une même réalité, celle de la domination de l'impérialisme sur le monde qui maintient un chaos incessant, ponctué de crises, de guerres, de massacres. Combien de guerres, de coups d'État ou d'assassinats ont-ils été froidement calculés et orchestrés par les réseaux politico-militaro-financiers afin de s'assurer la domination de régions du monde pour contrôler leurs ressources naturelles ou des commandes d'armes? À une toute petite échelle, et en rapport avec notre sujet de ce soir, l'attentat de Karachi en 2002 a par exemple révélé l'implication du gouvernement français et d'intermédiaires véreux dans une affaire de rétrocommission sur des contrats de vente de sous-marins français au Pakistan. Chaque fois que l'impérialisme manœuvre ou intervient pour perpétuer son ordre, les méthodes qu'il utilise créent un déséquilibre supplémentaire qui alimente et aggrave l'instabilité que ces méthodes sont censées réduire. L'impérialisme sape lui-même son propre ordre mondial. Il le sape aussi en faisant passer la défense de ses intérêts par des États vassaux, contrôlés par une couche dirigeante locale corrompue et travaillés par une instabilité permanente. Car si le rôle de gendarme vis-à-vis de leur propre population et de laquais de l'impérialisme sont les principales raisons d'être de ces États vassaux, ils doivent cependant s'assurer d'une certaine base sociale. Pour cela, ils sont prêts à recourir à la pire démagogie, nationaliste, ethnique ou religieuse, mettant ainsi la main dans un engrenage qui peut provoquer à terme la déstabilisation des appareils militaires, voire provoquer leur désintégration en bandes d'hommes armés concurrentes, condamnant des régions entières au chaos permanent. L'ordre impérialiste a ainsi favorisé la montée de l'intégrisme musulman et hindou et le développement de l'appareil militaro-mafieux de l'armée pakistanaise. On a vu aussi l'ancien pion de l'impérialisme, qui était Saddam Hussein, se retourner contre ses maîtres, puis Ben Laden, ancien pion de la CIA, et enfin les divers clans islamistes que Washington avait propulsés sur le devant de la scène afghane. De l'Irak à la Somalie et à l'Afghanistan, les tentatives de l'impérialisme pour compenser ses déboires par la guerre n'ont fait qu'aggraver le chaos qu'il imposait aux populations de pays pauvres, un chaos qu'elles paient non seulement de leur sang, mais qui de surcroît les repousse des décennies en arrière. Le fait que des millions d'Afghans ou d'Irakiens soient réduits à vivre et parfois à mourir sous les bombes, dans le dénuement et l'absence d'infrastructures les plus élémentaires, constitue un gâchis humain sans nom. Et pourtant, c'est cette vie-là que l'ordre impérialiste impose à des centaines de millions d'individus de par le monde. Et puis, derrière ce gâchis humain, il y a le gâchis matériel colossal que représentent les dizaines de milliards de dollars dépensés en armement par l'impérialisme pour ces guerres, alors que ces milliards auraient pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, des routes asphaltées. Sous l'emprise de l'impérialisme, le monde est voué à des guerres incessantes et éternellement recommencées, empêchant tout développement économique et tout progrès digne de ce nom pour l'humanité, avec des conséquences encore plus dramatiques pour les pays pauvres. Alors oui, cette guerre d'Afghanistan est un échec pour l'impérialisme, un de plus. Mais l'impérialisme sait surfer sur les conflits, sur les oppositions nationales ou religieuses. Pas plus les attentats sanglants de Kaboul ou d'Islamabad que les pogroms de Bombay ne font frémir les bourses occidentales. Tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes capitalistes. Quant à l'instabilité politique en Asie du Sud, tant que cela n'explose pas, l'impérialisme saura vivre avec. Les guerres civiles en Angola ou au Congo n'empêchent pas Total, Shell et les trusts miniers de piller les ressources de ces pays. Au contraire, le pillage impérialiste sait s'accommoder du chaos et de la barbarie auquel il contribue. Quant aux peuples concernés, ils se retrouveront sous la coupe de force toujours plus réactionnaire, celle-là même que les dirigeants de Washington, Londres ou Paris auront fait naître par leur politique. Mais on ne débarrassera pas la société de ces forces réactionnaires sans éliminer l'instrument qui les a créées, c'est-à-dire l'impérialisme lui-même et le système d'oppression sur lequel il s'appuie à l'échelle de la planète. C'est une nécessité, non seulement pour tous les peuples des pays pauvres, mais aussi pour ceux des pays riches. Il n'y a pas d'impérialisme propre, pas plus que de capitalisme propre. Alors, la seule perspective vivable pour les classes populaires d'Afghanistan, de la région comme de tous les pays belligérants, la seule issue pour la classe ouvrière internationale, c'est d'en finir avec ce système impérialiste, ce capitalisme pourrissant qui ne se survit à lui-même qu'en couvrant la planète de sang et de tyrans. C'est dans cette perspective que nous tenons à lever et à défendre le drapeau du communisme, le seul avenir possible qui permette à l'humanité de se débarrasser de ce chaos et de la barbarie.